La chronique de Pierre-Yves McSween, présentée par Kleenex.
Le temps, c'est de l'argent. Et avec Kleenex, les rendez-vous sont rapides.
Le calcul est simple. Infiltration, mammographie, échographie, radiographie. Vous avez votre prescription. KleenexImagerie.com.
Trois Kleenex. Un numéro, 653-9933.
Dans Bouchard en parle, voici Pierre-Yves McSween.
Pierre-Yves, bonjour.
Salut.
Tu veux me parler d'abord de déclaration d'impôts?
Oui, en fait, déclaration de revenus.
De revenus?
Sylvain, tu connais la relation de l'Agence de revenus du Canada et de Revenu Québec?
Non.
C'est comme des best buddies, mais il y en a un qui domine l'autre. C'est-à-dire que dans la situation de la pandémie, l'Agence de revenus du Canada va être le leader du terrain de ballon chasseur. Puis, okay. Revenu Québec va être le chien de poche derrière. Bon, je ne veux pas insulter personne à Revenu Québec, on taquine, là, OK? C'est tout ça pour dire qu'on attend à Revenu Québec de voir, évidemment, ce que l'ARC va faire. Si l'Agence de revenus du Canada dit, savez-vous quoi, les particuliers, là, ça commence à être un peu long, les déclarations, il y a des problèmes à préparer, on va leur donner 30 jours de plus. Revenu Québec va lever la main, ben, on n'a pas le choix, hein, parce que les gens voient ça en même temps, tu comprends?
Oui, les deux, oui.
Fait qu'ils vont faire ça en même temps. Et donc, le point là-dessus, c'est de dire, pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Mais Sylvain, je peux te dire qu'il y a des CPA qui me disent, j'ai fait autant d'heures jusqu'à maintenant que toute l'année passée dans la saison des impôts, entre guillemets. Pourquoi? Mais le monde, ils ont de la misère, là, parce que là, ils ont la fameuse PCU, la PCRE, la subvention salariale. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire.
Oui,
ce qu'on appelle là, du back and forth. Tu sais, des appels, retours. Tu m'as pas envoyé tel papier, qu'est-ce qui se passe? Là, tu essaies de rejoindre l'employeur, tu essaies d'avoir une permission, tu essaies de rejoindre le gouvernement. Tout est long, tout le monde est en télétravail, tout le monde est, tu sais, le monde administratif est au ralenti. Et donc, Sylvain, entre toi et moi, là, puis là, il y a juste toi et moi, il n'y a personne d'autre qui écoute, là. Moi, si j'étais à l'ARC, je donnais une petite pause aux gens, là. Mais là, tu dis pas ça le 1er janvier, évidemment. Parce que les gens qui sont motivés à leur affaire, ils envoient leur déclaration de revenus.
Oui. C'est mais exactement ceux ce que qui ont... j'allais dire. Hein? La décision, elle est déjà prise. Mais ils l'annoncent pas.
Mais
tu penses
qu'elle est prise plus tard, que de retarder ou de pas retarder?
De retarder, mais ils l'annoncent pas tout de suite. Ils vont nous donner un mois de break encore, moi, je pense. Comme l'an passé, sauf que là, ils le disent pas justement pour que...
C'était plus que ça,
t'as raison.
Ouais. La question aussi, c'est de retarder le paiement, parce que c'est pas combien tu dois. Ce serait une bonne idée aussi de retarder le paiement, mais on a vu jusqu'en stick, parce que septembre. Moi, je souhaite pas nécessairement au comptable d'avoir jusqu'en septembre, parce que là, ça retarde toute la patente, ça change toute ton année, mais peut-être qu'il a donné un peu de temps. Puis les mauvaises raisons, Sylvain, je vais te donner, là. Quand les gens disent, ouais, j'ai fait moins d'argent cette année, j'aurais pas payé mes impôts tout de suite, ça, c'est pas une bonne raison, parce que techniquement, si t'as de l'impôt à payer, c'est parce que t'as fait le revenu, et donc, que je te retarde ça ou pas, la déclaration, si t'as un retard de paiement à avoir, tu feras une entente avec le gouvernement sur 12 mois, un taux vraiment sympathique, puis ce sera un autre cas. Mais les bonnes raisons, c'est, je te donne un exemple. T'es un praticien seul avec deux employés. Puis là, il y en a un qui tombe malade. Ben lui, il vient, s'il te rencontre, il vient mettre tout le monde hors circuit, tu comprends? Il vient de mettre tout le monde complètement hors circuit. Fait que ça, c'est compliqué à faire. Deuxièmement, il y a aussi la question des congés de maladie, les gens qui ont leurs enfants à la maison. Tout ça, ça règle le problème. Tu sais, c'est un problème majeur. Fait que ça, c'est tout ça est à penser avant de faire quoi que ce soit.
Je pense qu'écoute, ils nous ont donné un break l'an passé. Je vois pas pourquoi ils nous en donneraient pas un là. La situation s'est pas bien améliorée, là.
Non. La situation s'est pas améliorée.
Quand tu regardes ça au niveau de l'économie, au niveau des jobs, écoute, nous autres ici, on est en rouge foncé. Montréal, vous allez le devenir pas mal tantôt, là, dans 10 minutes. Alors, économiquement parlant, si c'était justifié l'an passé, je vois pas pourquoi ils le donneraient pas.
Ouais, mais en même temps, l'année passée, pandémie, les gens sont arrêtés, c'est le début, on n'est pas habitué, qu'est-ce qui va avec les impôts, une nouvelle affaire, les gens sont encore sa PCU, on n'a pas réouvert le travail. C'était plus compliqué l'an passé.
Ouais.
C'était un coup. Tu sais, oublie pas que la pandémie est arrivée mi-mars, puis c'est le 30 avril. Donc, tu sais, il y a ça aussi, que là, ça fait un an qu'on est habitué, tu peux pas dire, j'ai pas mis mes processus en place, j'ai pas numérisé mes affaires. Mais il y a
non, mais pense au business, là, toutes les fermetures à tout bout de champ, le yo-yo, on ferme, on rouvre, c'est compliqué ça à gérer, ça.
Exact, puis tu sais, honnêtement, il y a les personnes âgées aussi qui n'ont pas nécessairement numérisé leurs affaires, là. Puis c'est compliqué pour eux d'apporter le papier, les enveloppes.
On va espérer un break. On va espérer un petit break. On va suivre ça. Tu veux me parler d'immobilier, toujours le marché qui est en feu, d'une façon pour essayer de contrôler un peu tout ça.
Ouais, en fait, c'est que là, Sylvain, évidemment, avec tout ce qui se passe, il y a des nouvelles qui passent en dessous du radar. Puis tu sais, qui excitent personne. Mais moi, tu me connais. Je suis excité par des affaires différentes. Puis là, je sais pas si tu viens de Jim Flaherty, feu Jim Flaherty, qui au début, il avait ramené la période d'amortissement des prêts, tu sais, de 40 ans à 25 ans. Il avait dit, hey, là, ça va faire, on a été laxiste là-dessus, on a permis aux gens d'aller de plus en plus long sur le délai de remboursement, tu sais. Puis là, présentement, le bureau du surintendant des institutions financières dit, hey, vous savez quoi, là? Tu sais, pour les prêts non assurés, là, tu sais, ceux qui ont 20% et plus. Mais là, on trouve qu'il y a un peu d'excès là aussi, puis on pourrait dessus que le taux hypothécaire contractuel sur lequel on transige, c'est une chose, mais le taux sur lequel on doit être capable de payer, on peut-tu l'augmenter de 4,79 à 5,25? Donc, je te mets en contexte. Disons que tu vas négocier un taux 5 ans.
Oui.
Sur une nouvelle propriété. T'en avais déjà une, tu l'as vendue, t'as ton 20% de mise de fonds, tu t'en vas t'acheter une nouvelle propriété, puis là, tu t'envenimes dans le nouveau marché, t'es complètement fou, puis là, tu fais de la surenchère, puis là, tu t'avais une possibilité d'emprunter sur quoi? Le taux négocié, donc, par exemple, 2%, c'est loin. Mettons que t'avais réussi à négocier avec ta banque 2%, ben là, fallait que tu sois capable de payer le maximum de 2% plus 2%, donc 4%, ou 4,79%. Donc, en somme, tu payais jusqu'à maintenant, on calculait ta capacité de respecter les ratios à 4,79%. Et là, on dit, on voudrait amener ça après les consultations à 5,25. Ça veut dire des gens qui vont pouvoir emprunter quelques dizaines de milliers de moins de dollars par maison. Ben, si tu fais ça à la grandeur du Canada, à l'échelle de tous les marchés, ça va faire en sorte que ça va peut-être calmer en partie un début de surenchère. Par contre, il y a plein d'autres mécanismes. Hein? Tu peux aussi dire, on va relaxer la titrisation de la CHL, on va resserrer les conditions de financement, on va augmenter les primes d'assurance pour ceux qui n'ont pas 20% de mise de fonds. Les remboursements de taxes sur les maisons neuves, tu peux jouer avec ça aussi. Parce que présentement, Sylvain, si tu achètes une maison de 500 000, là, tu ne te fais pas rembourser ta TPS TVQ. Mais si tu achètes une maison de 300 000 neuve, là, tu te fais rembourser une partie. Alors la question, est-ce que le gouvernement va jouer avec ça aussi? Pour encourager le marché ou décourager le marché. Je donne un exemple. Si la TPS et la TVQ sur les maisons neuves étaient un peu plus remboursées, mais le prix des maisons neuves présentement étant très élevé, c'est rendu difficile de se faire rembourser la TPS et la TVQ sur ta première maison ou sur une maison que tu achètes neuve. Et donc, tu dois la payer. Quand tu vois une maison ou un chalet en vente neuf, 500 000 plus taxes, c'est comme si on te garochait 75 000 qui te fait tu sais, et que le prix des matériaux, de la main-d'œuvre et de la surenchère, tes taxes, tu les payes sur la valeur de la maison. Et non pas sur le temps de construction, sur le nombre d'immeubles, sur la superficie, tu payes sur la valeur.
J'ai une nouvelle théorie. Je comprends tout ce que tu nous dis, que le gouvernement a peut-être intérêt à calmer un peu parce que là, le marché surchauffe, comme on dit, puis bon, ça n'a plus de bon sens. Mais je pense qu'on néglige le facteur psychologique relié à la pandémie. la fin de la pandémie puis la vaccination, parce que je pense que aujourd'hui, j'ai parlé d'un autre sujet, mais c'est relié un peu, c'est les cartes de sport. Le marché est en feu, ça n'a aucun bon sens.
Et moi, je touche plus à ça. Hein.
Comment ça?
Moi, je me suis brûlé avec ça quand j'étais jeune, j'ai appris. Là.
OK.
Je comprends que les gens, c'est plus le même marché. Je danse parce que j'ai connu le marché Upper Deck, là, tu sais, 1990, 91, 92.
Ouais, c'est des années.
Les mauvaises années des cartes de hockey où il y en imprimait chaque fois que le monde en voulait, là. Ils jouaient avec l'offre et la demande. Mais quand même, Sylvain.
Mais même là, ça a augmenté. C'était encore le Dominique Hachek, là. J'ai trouvé ça hier, Upper Deck.
Écoute-moi, les cartes que j'ai valent pas grand chose. Pourtant, dans le temps, ils valaient quelque chose. J'ai pas valu le bouillé recru, si tu le veux. Je te le vends 25$ quand tu veux. Mais.
T'as pas checké tes affaires. À mon avis, il vaut 50 ou peut-être 100.
Ah, non.
J'accepte ton offre de 25, trop tard.
Écoute, je te l'envoie. Non, mais pour vrai, l'affaire avec les cartes de hockey, ce qui est spécial, c'est que ça peut valoir cher à un moment, moins cher plus tard. Puis, tu sais, tout l'argent que tu mets là-dedans, là, si tu l'investis à quelque part d'autre, est-ce que c'est vraiment le meilleur rendement? Disons que c'est un placement pas trop liquide. C'est un placement carton. Mais il y en a qui font fortune avec ça. J'ai vu un gars qui avait une collection qui dit ça vaut 100 000 $. Hey, si t'as mis 100 000 $ dans tes cartes de hockey, là, c'est que t'aimes ça, hein?
Et en passant, c'est-tu imposable, ça?
Un gain en capital.
Gain en carte d'hockey?
C'est imposable, techniquement, Sylvain. T'as raison. Un gain en capital sur un bien à usage personnel, imposable. Sauf, et là, le premier 1000, il n'est pas vraiment imposable. Si tu fais un bien à usage personnel, on va ajuster tout ce qui est en bas de 1000$, on va ajuster le prix puis le prix de vente à 1000 pour que ça donne zéro de gain. Donc, ta carte d'hockey individuelle, elle n'est pas imposable. Par contre, une collection, Sylvain, bienvenue dans le monde de la finance et de la fiscalité.
Oui, j'aime ça.
Une collection de cartes de hockey qui vaudrait, par exemple, 2000$, là, puis que tu l'aurais payé 500, là, il y aurait un gain imposable. Tu pourrais pas dire, ouais, mais là, je vends chacune des cartes de façon individuelle. Non, parce que tu les vends comme une collection. Hey, c'est compliqué.
Hey, la nuance est importante.
Mais je connais pas grand monde. Je connais pas grand monde qui ont déjà déclaré leur gain sur la vente d'une carte de Bobby Orr recrue.
Alors, voilà l'avantage, mais je pense que les gens ont besoin d'émotion. Acheter une maison, au-delà du sens pratique qu'on veut se loger, c'est un projet intéressant, c'est enivrant. Il se passe rien dans nos vies. Les gens se garochent vers des... Pareil pour les cartes de sport.
Je dépense. J'ai acheté, je pense que j'ai payé 25$ pour un fil d'écouteur pour mon garçon. Je me suis dit, il n'attendra pas Noël.
T'es rendu hors de contrôle.
Attachez-le quelqu'un.
Je te reconnais plus, là.
Ça des fois, là, je vais chercher deux cafés dans la même journée.
Arrête donc, toi.
Juste pour sortir de chez nous.
Fourette.
Je te dis.
T'as besoin d'émotion. C'est comme les gens qui payent 50 000 de plus pour une maison, mais à ton niveau à toi.
Je paye 5$ pour jaser avec quelqu'un deux minutes dans ma journée.
Hey,
parce que toi, je suis payé pour te jaser, mais il y en a qui me parlent. Il y en a que je paye pour jaser avec eux autres.
Merci, Pierre-Yves.
Salut.
Bye. Je pense que, je faisais aller un peu entre l'immobilier, puisque je vous ai parlé sur le marché des cartes de sport, puis tout le reste, là. On a besoin qu'il se passe de quoi dans notre vie? Je pense que ça explique peut-être pourquoi autant de gens veulent tout acheter des maisons en même temps. Il y a de quoi d'irrationnel puis de illogique, mais en même temps, c'est leur vie, j'y comprends, j'ai rien à dire contre ça. On veut juste savoir pourquoi. Il y a peut-être ça, là.
On n'a pas de vie.
Mais on n'a pas de vie. Oui. S'acheter une maison, c'est un maudit beau projet de vie, s'acheter une maison
c'est stressant,
en passant. Mais au moins, tu vis de quoi? Se passe de quoi dans ta vie? Fait que, s'achète une maison.
Après ça, tu fais des boîtes, après ça, tu déménages, puis tout.